Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Actualité, je disais, très chargée, et pour commenter toute cette actualité, Victoire Rivaton est avec nous. Salut Victoire.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver, Victoire, consultante indépendante et fondatrice de Yo.
Exactement.
On rappelle ce qu'est Yo ?
Yo, c'est... Donc je suis... Freelance. J'aime bien dire que je suis freelance parce que
c'est important.
C'est très important. Mais je suis freelance et je fais du conseil en communication pour des entreprises de la tech et des patrons qui aiment la vitesse d'exécution.
Ah, voilà. J'espère qu'il y en a beaucoup qui aiment la vitesse d'exécution.
Généralement dans la tech plutôt.
Ouais. Ça va vite.
Ouais, ça va pas très lentement.
Il va très vite lui aussi, c'est Ben Marel. Je sais pas si vous vous connaissez tous les deux.
Pas encore.
Non, pas encore. Mais c'est un plaisir.
Bien, vous allez vous connaître et rencontrer sur le plateau de Tech & Co. Salut Ben, ravi de te retrouver aussi, cofondateur et CEO de Briga. Voilà, tu investis dans. Voilà, les startups de demain, on peut le dire.
Ça, une centaine déjà.
Tu une vois, centaine, mon Dieu.
Donc ça avance, ça avance.
Avec ton tableau de chasse, quelques belles pépites hein, aussi. Hein.
Quelques-unes, ouais, des Exotech, des Iban First, des Alice et Bob. Enfin, il y en a pas mal. Ouais.
Voilà. Et en visio, il est avec nous, plus beau que jamais. Si vous êtes à la télé, vous allez l'apprécier. C'est Bruno Guglielminetti. Salut Bruno.
Bonsoir François.
Tout va bien Bruno ?
Alors ça va très bien, heureux d'être dans votre compagnie.
Alors j'ai l'impression que la qualité d'image qu'on a en visio pour cet entretien avec toi est encore incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as piqué une caméra à BFM ?
Ouais, j'ai investi dans l'acquisition d'une 4K, puis c'est ce que ça donne.
Eh ben voilà. Alors, écoute, tu sais, en tout cas, le résultat est très impressionnant. Bruno, qui est au Québec, c'est pour ça qu'il est avec nous en visio. Et Bruno, qui est entre autres l'auteur de ce podcast que je vous recommande, Mon Carnet de l'actualité numérique, et bien évidemment aussi, tu es journaliste, Bruno. Tous les trois, donc, pour commenter l'actu, on disait, on va revenir sur le DMA avec Apple, encore une fois, le nouvel App Store alternatif qui va concurrencer celui d'Apple. On commence à avoir une petite idée de ce à quoi il va ressembler. On parlera aussi de Meta, Microsoft, X et Tinder qui vont faire comme Epic Games et qui veulent attaquer Apple en justice parce qu'ils sont mécontents en fait des conditions d'utilisation de l'App Store. Hein. On revient toujours à la même chose. Mais pour débuter, on reste du côté d'Apple et vous allez voir, c'est une journée un peu noire quand même. Hein. Puisqu'après l'Europe, c'est les États-Unis. Apple se fait attaquer même à la maison. Le gouvernement assigne l'entreprise en justice pour pratiques monopolistiques sur l'iPhone. Les explications tout de suite d'Antoine Delarue, qui est correspondant BFM Business à Washington.
Alors c'est l'iPhone qui est au cœur de cette plainte. Le ministre de la Justice dit que Apple a mis en place avec son téléphone star un système destiné à tuer toute forme de concurrence. Et il donne des exemples très concrets. D'abord avec les SMS. Lorsque vous envoyez une photo depuis un iPhone vers un téléphone concurrent, ça marche mal, les photos sont compressées, elles sont de mauvaise qualité, alors qu'il n'y a aucune dégradation lorsque le message est échangé entre deux iPhones. Même chose avec les Apple Watch, les montres connectées. Elles fonctionnent parfaitement avec les iPhones, mais très mal avec les téléphones Android, et tout cela, c'est volontaire selon la plainte. Ces restrictions n'auraient qu'un seul objectif, forcer les consommateurs à acheter des appareils Apple plutôt que des smartphones de marques concurrentes. Toujours selon la plainte, il y a le même genre de manœuvre sur les applications, exemple avec le wallet, le porte-monnaie numérique d'Apple, qui est le seul à avoir accès au NFC et donc le seul qui peut faire du paiement sans contact. Conclusion du ministre de la Justice, Apple a bâti sa domination uniquement grâce à un monopole. Aux États-Unis, l'iPhone, c'est 65% de part de marché. Le groupe qui a réagi et qui dénonce un dangereux précédent qui menace son identité.
Voilà, le ciel s'assombrit pour Apple. Alors, ça avait commencé il y a quelques mois de cela avec toutes les, on va dire, les mises en place de la réglementation du DMA en Europe. Et là, visiblement, ça se complique aussi aux États-Unis. Bruno Guglielminetti, on commence peut-être par toi. Est-ce que tu t'attendais à ce coup de bambou signé du gouvernement américain concernant Apple ?
Ben, je m'en attendais, mais évidemment pas nécessairement aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que l'enquête, elle date de 2019. Ça avait été lancé sous l'administration de Donald Trump. Et donc, on s'attendait un jour ou l'autre à voir quelque chose tomber. Mais là, c'est une massue. Et d'autant plus que c'est très habile de la part du ministère de la Justice aux États-Unis. Ils sont pas seuls. Hein. Il y a 16 États qui se joignent à cette mise en accusation. Donc, ça peut faire très, très mal. Et puis, c'est un mauvais moment pour Apple aussi, parce que d'un côté, il y a toujours eu cette vision monopolistique de la part de l'approche d'Apple, et Apple s'est toujours défendu en disant que c'est un écosystème pour sécuriser l'expérience de l'utilisateur qui se faisait. Mais depuis que Apple a été obligé par l'Europe, alors merci à vous, d'ouvrir une brèche pour permettre à des tiers d'y installer des boutiques. Ben, j'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir les écluses et là, l'eau va couler. Alors évidemment, de voir le ministère de la Justice aux États-Unis arriver avec cette poursuite avec 16 États américains, ben, je pense qu'Apple en a pour quelques mois à souffrir.
Alors, quelques mois à souffrir, j'imagine en plus que bon, cette pratique va mettre du temps à se mettre en place, hein, en fait, cette attaque, hein, puisque, bon, vous le savez, voilà, la procédure judiciaire commence, ça va prendre des mois, sans doute des années. Ben, ça se complique pour Apple, ça se complique parce que pendant des années, Apple a fait ce qu'il voulait, finalement, hein, avec son écosystème, l'Apple Watch connecté uniquement à l'iPhone. C'est quand même dingue quand on y pense. Vous achetez une Apple Watch, elle ne marche que sur l'iPhone. Vous ne pouvez pas la connecter sur un Android, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Il y a plein de choses comme ça. Les e-messages qui sont vraiment, qui font partie de la signature d'Apple, là, visiblement, tout ça pourrait sauter en éclats.
Ben ouais, j'ai envie de dire que c'est presque... C'était presque trop gros pour que ça ne vole pas en éclats, en fait. Ça fait des années qu'on sait, et qui ne s'est jamais plaint de dire qu'on se sente parfois un peu enfermé dans le costume de l'environnement Apple.
On peut même se dire, c'est étonnant que ça n'ait pas explosé avant.
Bien sûr, et donc je pense qu'aujourd'hui, alors la date d'aujourd'hui, personne ne pouvait la prédire, bien sûr, mais ça fait maintenant plusieurs années que Apple fait partie des sociétés les plus grandement valorisées dans le monde, et qu'elles sont sous le regard des régulateurs, et notamment des lois antitrust et anti-concurrence. Donc moi je suis pas très étonné et comme on le disait, c'est du béaba et ça paraît même aberrant. Je veux dire que effectivement que l'Apple Watch ne marche qu'avec un iPhone, c'est évident qu'un jour ou l'autre ça allait se faire retoquer. Donc ils ont pu engranger les bénéfices associés à ça pendant longtemps. Je pense qu'il y avait un effet d'aubaine dont ils ont bien profité. Et finalement c'est qu'un juste retour de bâton dans un environnement qu'on sait qui doit être concurrentiel, qui plus est dans la tech où on a toujours plutôt poussé pour l'ouverture des plateformes, la multicompatibilité. Voilà, c'est petit à petit une forme de monopole qui va se faire rogner. Ouais.
Et un peu sur tous les continents, c'est ça qui est intéressant, parce que le DMA, voilà, punit Apple de ses pratiques, on va dire, anticoncurrentielles. Et là, donc, c'est les États-Unis, Victoire. Ça veut dire que, finalement, ce n'est même plus lié à un continent. Ça va être mondial, cette remise un petit peu à niveau d'Apple.
Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce que l'UE a fait par le DMA, les États-Unis le fait par le juge. Donc c'est juste, oui. C'est juste un autre canal, mais finalement le mouvement est assez similaire. Et alors moi, dans les années 90, j'étais un bébé, donc j'ai pas suivi tous ces mouvements-là. Mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé que c'était assez similaire à ce qui s'était passé avec Microsoft dans les années 90. C'est l'acteur qui est très gros, trop gros, qu'on va chercher à réguler,
mais
on laisse grossir, on laisse les abus, et puis au bout d'un moment, on tape dessus et puis on enchaîne les procès. Je pense qu'Apple survivra. Je pense qu'aussi ils ont une marque très forte, des produits très forts. Effectivement, comme tu l'as dit, hein, on est enfermé dans un écosystème. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a des similitudes finalement. Et on regardait beaucoup l'Europe avec le DMA, c'est juste les États-Unis font pareil. Et tu l'as dit, on ouvre une brèche. Mais c'est vrai que c'est rigolo, je trouve que c'est assez marrant. Faudrait regarder ce qui s'était passé avec Microsoft et étape après étape. Alors, je ne sais pas si vous avez.
Oui,
vous êtes
sûr.
Un peu plus âgé que moi.
Un tout petit peu plus.
Légèrement.
Je vois pas ce que tu veux dire.
On se souvient du problème du navigateur Internet, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
bien
à l'époque
sûr.
De Windows, c'était quoi Windows XP, Windows Vista, enfin
ça,
à cette époque-là.
Oui, bien sûr.
Ben voilà, on surfait sur Internet avec un seul et unique navigateur, c'était Internet Explorer à l'époque. Et tous les autres, que ce soit les Chrome, les Firefox, alors Chrome n'était pas encore très présent, mais il y avait beaucoup Firefox et d'autres navigateurs, style Opera, etc., qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas mis en avant. Il fallait avoir une démarche personnelle de désactiver Internet Explorer, d'aller télécharger d'autres navigateurs alternatifs. Et ça avait coûté 500 millions à l'époque à Microsoft. Je ne sais même pas s'ils ont payé l'amende, d'ailleurs, avec le recul. Mais en tous les cas, ils avaient été obligés, et ça je m'en souviens très bien, de proposer une mise à jour. Et à la mise en route de la mise à jour, on nous demandait de choisir par défaut le navigateur qu'on voulait. Un peu comme on l'a fait et on va le faire avec l'iPhone. Je ne sais pas si vous avez installé la dernière mise à jour, mais moi j'ai été surpris parce que de temps en temps je vais sur le navigateur Safari. Et la première fois que j'ai lancé le navigateur Safari avec la mise à jour, Apple m'a dit quel navigateur vous le souhaitez.
De préférence.
De préférence. Qui était insensé il y a encore 6 mois chez Apple. Voilà. C'est l'une des, on va dire, des applications du DMA. Bruno, parce que alors c'est un peu autre chose, hein, ce qui se passe aux États-Unis. C'est e-message qui est visé. C'est l'Apple Watch, je crois. Et il y a aussi une autre. Oui, c'est Apple Pay, je crois, aussi, le wallet.
Ouais, il y a ces trois services-là, mais aussi faut garder en tête que il y a des réprimandes qui sont portées à Apple aussi dans deux autres secteurs, et ça va ressortir dans les discussions. C'est évidemment le fait de ne pas avoir de place pour un vendeur tiers, un peu comme il va être possible d'être fait en Europe maintenant. Et puis aussi c'est l'impossibilité aux grands joueurs du divertissement, on peut penser à Epic Games notamment, d'avoir la possibilité de pouvoir installer un service en ligne qui se permettrait évidemment à l'éditeur ou à celui qui offre ce service d'engranger des profits, alors que là, ben, pour le moment, Apple interdit toute démarche dans ce sens. Alors, ça va être vraiment intéressant. On part avec des points qui sont mentionnés, mais il faut être certain que d'autres points vont être soulevés. Et c'est vraiment pas... On essaie de prendre tous les points fragiles, les irritants du système, de l'écosystème que Apple a bâti. Et puis, c'est sûr que sur les côtés, vous pouvez être certain qu'il y a énormément d'entreprises qui ont beaucoup à gagner de cette histoire-là. Parce que si Apple est pris à défaut, bien évidemment, ils vont devoir se retourner. Un peu comme l'histoire que vous étiez en train de raconter au sujet de Microsoft à l'époque et d'Explorer. Bien, ça a été tous les autres joueurs qui étaient heureux de finalement pouvoir apparaître dans l'écosystème de Microsoft à l'époque.
Juste une petite précision, on parlait d'e-message qui était une messagerie un peu exclusive, hein, qui ne fonctionnait que sur les iPhones. Je pense que cette mesure va devenir un petit peu obsolète, hein, Bruno, puisque le RCS va bientôt arriver sur les iPhones, qui est le futur du SMS et qui permet en fait d'avoir une qualité de messagerie quasi équivalente à iMessage, qu'on soit sur iPhone, mais aussi sur Android. Ouais. En fait, c'est le futur du SMS. D'ailleurs, c'est même plus qu'un futur, puisque ça marche déjà sur les téléphones Android. Pendant des années, Apple a refusé l'implémentation du RCS. Sans doute, suite aux pressions à la fois du gouvernement américain, mais aussi du DMA, Apple a été obligé de lâcher du lest là-dessus. Et les Chinois aussi, tout à fait, puisque c'est un standard de communication très répandu là-bas. Donc Apple n'a pas eu d'autre choix, alors qu'il y a quelques mois auparavant, disait on n'installera pas le RCS parce que ça va casser l'expérience utilisateur des utilisateurs de iMessage.
Et ils vendaient aussi le fait que c'était beaucoup moins sécurisé.
En plus,
iMessage, un de leurs arguments.
C'est toujours un peu le même argument. Hein. L'argument, c'est toujours l'expérience utilisateur, la sécurité, mais dans une vision très appelienne de la chose, où ça bénéficie directement. Donc, tant que ça leur permet de capter 30% des flux sur les paiements dans des apps et que ça interdit les utilisateurs de sortir, tout en les protégeant, bien sûr, ça les arrange. Ouais.
Alors, vous savez qu'on va revenir en Europe avec un autre sujet intimement lié à Apple, c'est le DMA, qui donc s'installe depuis quelques semaines maintenant. Alors, tout n'est pas parfait, hein, et d'ailleurs, tout le monde est en train de tirer la sonnette d'alarme concernant justement toutes les fonctions qui ont été mises en place par Apple concernant ce DMA. Personne n'est content, en fait, que ce soit Meta, Microsoft, X, donc anciennement Twitter, Tinder aussi, et même Epic Games veulent attaquer Apple en justice parce qu'ils estiment que le DMA, en tout cas la sauce DMA d'Apple, ne va pas assez loin. Et c'est intéressant parce que derrière tout ça, on se dit, mais Apple joue à quoi ? Au chat, à la souris, en fait, ils essaient de gagner du temps. Et l'Europe, derrière, veille au grain. Et il se peut qu'il y ait, un coup de baguette sur les doigts concernant l'Europe et le DMA d'Apple. C'est intéressant aussi de voir que Epic Games est tellement déterminé à vouloir sortir son App Store qu'ils l'ont annoncé, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, l'App Store alternatif, l'un des tout premiers, ce sera celui d'Epic Games, qui est en bataille contre Apple depuis des années, hein, Bruno. On a l'impression que ça devient véritablement une obsession de la part d'Epic de sortir son App Store le plus vite possible. Hein, on ne t'entend plus, Bruno.
Pardon, à défaut d'avoir pu gagner en cours contre Apple, ben j'ai l'impression qu'avec le DMA, l'Europe a donné une nouvelle chance aux gens d'Epic Games, et c'est un peu par là qu'ils voient leur salut. Et bien évidemment, puis on fait boule de neige, on revient encore avec l'histoire précédente. Si on est capable de prouver que ça fonctionne et que les gens sont heureux, que la sécurité est respectée, ben il faut être certain que la pression après aux États-Unis et en Asie va être forte sur Apple pour faire de même.
Oui, c'est clair. Là encore, est-ce qu'il faut que l'Europe tape plus fort Alors, on prend l'exemple d'Apple, les pauvres, mais bon, il y a Microsoft, il y a Google, il y a tout le monde hein, dans cette histoire-là. Est-ce qu'il faut que l'Europe soit encore plus sévère vis-à-vis de ces géants américains, Victoire ?
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils font des petits pas, c'est la politique des petits pas. On s'accorde pour avancer sur certains sujets, passer des accords, nouer des partenariats, puis on regarde si Margrethe s'agace, s'énerve, fait des déclarations, puis si elle fait des déclarations, bon, ben, on va aller un peu plus loin. Moi, j'ai l'impression que ça se cherche, hein. Je vais le dire de manière un peu crue, mais ça se renifle les fesses pour savoir dans quelle mesure.
Ouais, on se croirait dans un parc à chiens un peu. Hein.
Vraiment, on investit du temps, on essaye, c'est ça qui est assez intéressant. Après, moi, le seul effet concret aujourd'hui du DMA que je vois, c'est l'impossibilité d'aller sur Google Maps quand je fais une recherche Google. Et je trouve ça pénible.
Ouais.
Voilà. Mais pour moi, c'est le seul aujourd'hui effet que j'ai vu d'application dans ma vie quotidienne d'utilisatrice. Mais je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Je regarde beaucoup les petits pas. Voilà.
Ouais, les petits pas. Ouais. Et le parc à chiens.
Le parc à chiens. C'est moins joliment dit, mais ça marche tout autant.
Ben, sur ce sujet.
Ouais, sans surprise, c'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un géant de la tech se disent day one, ok, allez les gars, c'est open bar, je vous ouvre votre plateforme, venez vous régaler.
Ouais, ça me fait plaisir.
Voilà, bien sûr, allez, c'est cadeau. Ça fait 20 ans que je me gagne.
Le verre d'eau était à 20$, voilà. Maintenant il est gratuit, allez-y, faites-vous plaisir.
Donc c'est pas possible. Donc évidemment, ils vont lâcher du lest petit à petit en essayant de pas dépasser la ligne rouge pour pas se faire trop taper sur les doigts, mais en se disant quand même que s'ils peuvent maintenir du revenu et des bénéfices, je rappelle quand même que c'est un des plus gros contributeurs du PNL d'Apple, hein, le store, donc oui, évidemment, on essaie de verrouiller au maximum, donc c'est un petit jeu de chat et la souris, si on reste dans l'imaginaire un peu animalier. Je suis pas très surpris. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même de voir un peu la position d'Epic, en fait, dans cette logique assez verticalisée par médias. Mm-hmm. C'est vrai que assez injustement, finalement, on a des plateformes à la Netflix qui ont réussi à exploser, notamment sur les mobiles et autres. Les plateformes de jeux, il y en a moins, et donc je pense que l'attaque d'Epic, en se disant moi j'ai un écosystème de gaming suffisamment fort maintenant pour avoir une audience qui va être passionnée par le fait d'avoir un environnement dans lequel jouer, c'est vachement plaisant, c'est vachement intéressant, ça relance un peu les cartes du média et du contenu. Donc ouais, j'attends de voir ce que ça va donner.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Margrethe Vestager, elle, n'a pas la langue dans sa poche, hein, vous l'avez remarqué, et elle dit, bon, écoutez, messieurs d'Apple, faites attention, parce que elle met en garde Apple au sujet de cette taxe, vous savez, qui fait beaucoup jaser. À partir du moment où vous téléchargez une application sur un store d'interactif et que vous dépassez le million de téléchargements, et bien Apple, hop là, prend 50 centimes d'euros par téléchargement. Et Margrethe Vestager, sous la pression aussi des développeurs et des concurrents d'Apple, a été obligée de réagir. Et à Reuters, elle a dit qu'Apple fasse attention parce qu'il ne faudrait pas que cette taxe fragilise encore plus cet équilibre qu'on essaie de mettre en place au DMA. Et là, je pense que Apple va être obligée de réagir. Ça va être intéressant de voir l'énième rebondissement de ce DMA. C'est vrai, Bruno, hein, on a l'impression qu'on est chez un marchand de tapis. J'ai rien contre les marchands de tapis, mais là, on négocie comme ça un coup la livraison, un coup un petit tapis à côté, etc. Quoi, c'est ça.
Marchand de tapis de souris.
Bravo, Victoire. Félicitations. Celle-là, nous la gardons.
Non, mais l'image de Victoire par rapport au parc à chiens, c'est totalement ça.
Ça t'a plu, ça.
Et Apple doit être conscient que systématiquement, chaque mouvement, chaque décision qu'il prend, c'est pas une histoire que ça s'arrête aux frontières de l'Europe. Et il ne doit pas, quand je parle de son point de vue, il ne doit pas donner un centimètre, un millimètre, parce que derrière, il y a d'autres pays qui vont lui demander la même chose. Et le cas qui est en cours aux États-Unis, ça va être ça. Alors, vous pouvez être certain que chaque petit pas qui est fait de la part d'Apple pour répondre aux demandes de l'Europe, c'est mesuré et les impacts et les conséquences sont aussi calculés sur les autres marchés. Alors, c'est pour ça qu'ils vont jamais donner du lest, ils vont attendre et attendre et attendre et quitte à se faire taper sur les doigts pour, avant de pouvoir donner quelque soit la chose qu'ils vont pouvoir donner.
Ça, c'est ça. Ben, est-ce que ça peut... deux questions. Est-ce que ça peut... porter du tort à Apple en termes d'image, parce que tout ça, c'est pas très bon, finalement. On parle pas des produits, on parle pas de l'excellence d'Apple, qui a toujours été mise en avant, de cette boîte cool Hein. Là, d'un coup, elle devient moins cool parce que on voit que elle exploite les consommateurs, elle n'est pas d'accord avec la régulation, etc. Première question. Et deuxième question, est-ce que Apple risque de perdre beaucoup d'argent avec toutes ces limitations?
Alors, je vais commencer par la deuxième question. Oui, évidemment, évidemment. Aujourd'hui, c'est une manne financière, je le rappelais, c'est un des plus gros contributeurs au PNL d'Apple, hein, donc tout l'écosystème app. Donc, lâcher du lest là-dessus et déplacer de la valeur plutôt côté producteur de contenu, forcément, la valeur se déplace, elle est moins chez Apple, elle est plus chez les autres. Ça, évidemment, ça va se voir sur leur PNL. C'est pour ça qu'ils freinent et c'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés de lâcher du lest. Là où je le rejoins, c'est que le calcul, et je fais confiance sur Apple pour y réfléchir, bien sûr, mais il y a un moment où est-ce que le jeu en vaut la chandelle. C'est vrai qu'apparaître comme le grand méchant loup qui ne veut pas ouvrir l'écosystème, qui ne veut pas laisser les autres s'émanciper, qui ne souhaite pas laisser plus de liberté à ses utilisateurs, eh ben, ça peut porter préjudice. Comme il y a eu un désamour à un moment de Microsoft, on reprend l'image, hein, voilà, parce qu'on avait l'impression d'être un peu enfermé dans son environnement et que les gens ont trouvé Apple cool à l'époque parce que c'était la marque un peu plus alternative. Donc là, ils vont être moins alternatifs. Donc moi, je pense aussi que ça risque de leur porter préjudice.
C'est vrai, Bruno, parce que c'est vrai qu'on voit Tim Cook, il a l'air cool. Hein. Est-ce qu'il n'est pas en train de se transformer en Dr. Cook et Mr. Hyde, finalement, avec un côté, je fais des selfies avec tout le monde, je suis plutôt sympa, je vais aux inaugurations d'Apple Store, Apple sauve le monde, etc. Et puis, d'un autre côté, dès qu'on touche à son portefeuille, il est pire que Picsou, quand même.
Enfin, je veux dire par là... Pour le moment, Tim Cook peut prendre l'odieux du moment parce qu'il est en train de préparer sa sortie. Là. Il est en train de préparer la relève. Donc, s'il passe pour le méchant pendant un moment, ça va. Mais de l'autre côté, je reviens à la question précédente. Il faut quand même garder en tête que l'utilisateur, lui, quand il va dans la boutique au App Store ou sur une autre boutique alternative, il va voir le prix en euros, que ça coûte 1 euro, 2 euros, 3 euros pour prendre une application. Il ne va pas vraiment se faire de cas. Le téléphone, il le possède déjà. Et à partir de là, ça sera son choix de dire « je prends cette application ou pas ». Mais moi, je n'ai pas l'impression que pour le moment, il va y avoir encore un gros problème. C'est pas Apple a encore tout cette aura autour de ses produits, de sa marque, pour être tranquille pendant un moment. Même si, pour les gens qui suivent l'actualité de très près, ils sont plus méchants qu'à l'habitude. Je pense qu'ils sont peinards. Il va y avoir encore des files devant les magasins lorsque les nouveaux produits vont sortir.
Avant de donner la parole à Victoire, dernière petite question pour toi, Bruno. C'est vrai que, en plus, Apple aime bien mettre en avant ses utilisateurs et les prendre à partie. C'est-à-dire, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que, attention, tout ce qu'on est en train de mettre en place, l'Europe est en train de mettre en place, c'est pas bon pour vous parce que vos transactions seront moins sécurisées, parce que en termes de confidentialité des données, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, c'est vrai qu'ils prennent pas en otage les utilisateurs, mais en tous les cas, ils essaient d'intégrer dans l'histoire. Les utilisateurs en disant nous on est les gentils en fait et l'Europe est plutôt les méchants, c'est ça qui est fort.
Oui. Et on a vu le combat qu'ils ont depuis quelques années qu'ils ont eu avec contre Meta pour défendre la protection de la veuve et de l'orphelin par rapport à l'utilisation que le groupe Meta faisait par rapport aux cookies et toute l'information qu'ils obtenaient sur les gens, et ils ont mis le pied par terre en disant non, nous on défend nos utilisateurs. Alors ils sont peinards pendant un petit bout de temps là.
Ouais, bon. On verra bien. En tous les cas, tout ça est en train de se mettre en place. Hein, c'est ça qui est intéressant. Et vous êtes sur iPhone tous là ?
Évidemment.
Non, pas moi, je résiste.
Mais est-ce que vous, le jour où il y a un App Store alternatif, est-ce que vous irez sur l'App Store alternatif ou vous allez vous dire, comme beaucoup de gens d'ailleurs, est-ce que dit Apple ? Non. Moi, je reste dans le cocon Apple. Alors, je sais que c'est un peu une prison dorée, mais j'y suis bien. Mmh. Je suis le premier à le dire. Hein, attention. Hein. Victoire, comment vas-tu réagir ?
Je pense que je me poserai pas 1000 questions. J'irai sur l'App Store qu'aura l'appli que je voudrais.
La plus intéressante pour toi et...
Enfin, je pense que je mettrai pas, j'intellectualiserai pas.
D'accord.
Mon achat d'appli ou même mon achat de produit. Mais par ailleurs, on est tous en train de parler du DMA autour de cette table. On est tous clients Apple. Hein.
Oui, la plupart. Oui, donc, je pense. Ben, toi aussi ?
Non, moi, je résiste. J'ai résisté. J'ai sauté le pas il y a quelques années maintenant déjà.
T'as fait du switch iPhone Android ?
C'est de l'iPhone à Android.
D'accord.
Et ça m'a fait un peu bizarre au début. Les boutons n'étaient pas au même endroit. C'était un peu moins léché quand même. Ouais. Et aujourd'hui, franchement, il n'y a pas une différence énorme.
Alors, oui, mais est-ce que t'es plus heureux ?
C'était par choix.
Par rébellion, enfin, en tout cas par.
Par rébellion contre l'écosystème Apple, bien sûr.
D'accord.
Enfermé, okay. Je me sentais dans un carcan. Donc,
mais le fait que toutes ces mesures puissent se mettre en place, est-ce que ça te donnerait envie de retourner si le système Apple est plus ouvert ?
Évidemment, si les mesures amènent à quelque chose de plus ouvert.
Et c'est ça, et on terminera là-dessus, c'est l'aspect positif de tout ça, c'est que il y a d'anciens clients Apple qui pourraient revenir dans le giron Apple s'ils s'ouvrent, si l'écosystème s'ouvre.
Exactement.
Finalement.